Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être toujours fidèle à Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Bienvenue à tous ceux qui découvrent cette émission et des musiciens, des œuvres à découvrir ou à redécouvrir. Il va y en avoir beaucoup au cours de ce numéro qui, tout comme les derniers, va être très dense. De nombreux concerts ont eu lieu depuis une semaine et d'autres s'annoncent dans les jours qui viennent. Pour vous présenter et commenter tout ça, j'accueille aujourd'hui mes deux chers camarades, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous accueillons aussi un invité d'honneur dans cette émission, le ténor Ruben Velasquez. Et s'il est parmi nous, ce n'est pas en tant que chanteur cette fois-ci, mais parce qu'il est président de la Dame d'Aragon, l'association qui organise le concert Mozart Pèlerin de l'Infini, lundi 15 octobre à 20h à la Halle aux Grains de Toulouse. Au programme, il va y avoir le Requiem et deux mouvements du 23e concerto pour piano du Divin Wolfgang. Ruben Velasquez est là pour en parler avec nous en seconde partie de ce numéro. Avant d'en arriver là, nous allons tout de suite nous replonger dans l'actualité musicale de la semaine passée. C'est parti pour le premier volet de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
Je vous l'avais annoncé lors du précédent numéro de Mélomanie, nous allons faire dans celui-ci un petit bilan du festival Piano Jacobin, dont la soirée de clôture a eu lieu samedi dernier. Anne-Marie, Serge et moi, nous avons assisté à plusieurs concerts de cette édition 2018. Alors faire un bilan d'un festival de près de 4 semaines lorsqu'on n'a pas été présent chaque soir au Jacobin, c'est sans doute un bien grand mot. On peut cependant les uns et les autres sortir du lot les pianistes et les programmes qui nous ont le plus marqués. Par exemple, Serge Chauzy, si vous deviez retenir un ou deux musiciens, ce seraient lesquels ?
Ah, j'allais en retenir trois, mais...
Eh bien, bon, vous avez droit à trois.
Je vais assez vite. Il y a d'abord Joaquín Achucarro qui a ouvert le festival avec du Chopin.
Que du Chopin, d'ailleurs.
Que du Chopin. Il donne également beaucoup de... Il joue beaucoup de musique espagnole, évidemment. C'est la musique de ses origines. Mais là, en l'occurrence, c'était du Chopin, vraiment avec un style particulier, très très beau. Et puis, il y a eu un deuxième concert du pianiste écossais Stephen Osborne, qui lui, vraiment, a enthousiasmé toute la salle, puisqu'il a joué en particulier deux sonates de Prokofiev avec tout le motorisme qu'il faut pour du Prokofiev, donc c'était excellent. Et puis je voudrais quand même souligner le récital donné par Bertrand Chamaillou à Saint-Pierre-des-Cuisines, l'auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines, et consacré à l'œuvre pour piano préparé de John Cage. Ça, c'était vraiment éblouissant. C'était une véritable performance, d'autant plus que la performance musicale était accompagnée par une danseuse et chorégraphe qui, en fait, simplement suivait le vœu de John Cage qui, lorsqu'il a composé ses premières œuvres pour piano préparé, les avait destinées à être données avec une chorégraphie. Donc voilà pour moi, disons, les trois moments importants de ce festival.
Même question pour vous, Anne-Marie, bien sûr.
En regardant bien, en me souvenant, j'en retiendrai deux qui m'ont particulièrement marqué. Le pianiste russe Sergei Babayan, qui a montré une puissance pianistique phénoménale dans Rachmaninov, et puis aussi beaucoup de subtilité et de sensibilité dans des pièces de Chopin qui composaient la moitié du récital. Donc c'est un pianiste complet que l'on ne connaissait pas encore en France, et Piano Jacobin nous l'a révélé. Et puis il y a cette délicieuse pianiste française qui s'appelle Célia Onetto Ben Saïd, qui a la particularité d'être interprète, mais qui aussi aime composer et surtout transposer des œuvres célèbres. Elle a voulu rendre hommage à Leonard Bernstein pour le centenaire de sa naissance et elle a transcrit elle-même des pièces orchestrales et terminé par une transcription, oui, des danses symphoniques de West Side Story qu'elle a joué avec un sens du rythme et beaucoup, beaucoup de couleurs et un tempérament en même temps. Elle a joué des compositeurs aussi plus contemporains comme Ligeti et Prokofiev. Je crois que c'est une artiste complète et qui n'a pas tout à fait terminé ses études à Paris et qui a beaucoup de talent.
Eh bien, merci pour ces deux interventions. Alors, pour ma part, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi le concert d'ouverture de Joaquín Achucarro. Nous y étions tous les trois, d'ailleurs. Et puis, celui d'un autre pianiste espagnol, Luis Fernando Pérez. C'était le 26 septembre au Cloître des Jacobins, où il a donné un programme franco-espagnol composé d'œuvres de Granados, de Falla, Mompou, Albéniz et Debussy. En bis, il a tout de même un petit peu dérogé à ce programme franco-espagnol puisqu'il a joué le Nocturne opus 48 numéro 1, fameux Nocturne de Chopin, et puis le Clair de Lune de Debussy, on l'attendait un peu. Luis Fernando Pérez, un pianiste qui sait allier la fougue, la délicatesse et la musicalité. J'ajoute qu'il est particulièrement généreux dans son rapport au public, on voit le bonheur qu'il a à jouer et on a vu le plaisir qu'il avait à être là. Les spectateurs présents ne s'y sont pas trompés d'ailleurs, en l'applaudissant très longuement avec enthousiasme. Je vous propose de l'écouter dans une interprétation d'une des pièces qu'il a jouées le 26 septembre, la célèbre danse rituelle du feu d'Emmanuel de Falla. La danse rituelle du feu de Manuel de Falla, interprétée par Luis Fernando Pérez, avec lequel nous refermons ce chapitre consacré à l'édition 2018 de Piano aux Jacobins. Mais Ruben Velasquez, vous vouliez intervenir et nous dire ce que vous pensez de cette interprétation, et je crois même de Luis Fernando Pérez en général en tant que pianiste.
Bah, écoutez-moi, le fait que j'écoute El Baile del Fuego de Falla, c'est pour moi une évidence. Bon, ce pianiste est sûrement très bon dans un autre répertoire, mais pas dans celui-là. C'est une affirmation, cela c'est très personnel, mais on pourrait en discuter, en faire une émission. Je trouve que la pulsation musicale de Falla, de Turina, d'Albéniz, de ce qui est de l'intériorité, de la pulsation musicale interne fondamentale comme on doit avoir, n'y est pas.
Voilà, donc Luis Fernando Pérez, l'avis de Ruben Velasquez, très tranché. On va maintenant passer à autre chose, parce que je voudrais qu'on revienne maintenant sur une soirée à laquelle nous avons assisté tous les deux, Serge Chausier et moi, mardi à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'était la deuxième édition de Rendez-vous musical, un concert proposé et organisé par le compositeur toulousain Vincent Joquin, avec le soutien d'Édition W, une association qui œuvre à la promotion de la création musicale et des compositeurs d'aujourd'hui. Alors je tenais à ce qu'on parle de Rendez-vous musical parce qu'il offre au public une formule, un concept d'un genre tout à fait nouveau. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Serge ? Expliquez-nous un peu de quoi il retourne.
Oui, c'est vraiment une formule particulière pour un concert. Il y a un grand nombre de très courtes pièces et qui sont structurées, j'allais dire par genre, pas vraiment, par inspiration en quelque sorte. Alors il y a plusieurs modules qui rassemblent ces petites pièces. Le premier, c'est comme au cinéma. Vous l'aurez compris, il s'agit de musique de film. Hein. Il y a des musiques de John Williams, etc. pour Forrest Gump, pour Star Wars, et puis pour...
Ennio Morricone, Cinéma Paradiso.
Et pour le Cinéma Paradiso, etc. Ensuite, il y avait une section qui s'appelait Vent Nouveau, avec effectivement des évocations soit du vent, soit jouées par des instruments vent, ce qui est astucieux.
Ils étaient très nombreux sur le plateau, d'ailleurs.
Très nombreux, oui. Il y avait 17 musiciens, je crois, hein, en tout, sur le plateau. Puis il y avait Mélodie et couleurs, puis il y avait classique ou jazz, et puis masque et bergamasque, et ceci s'achevait par feu de joie. Voilà un peu les grands
modules,
chapitres.
Modules, espèces de modules.
Oui, oui. Alors, c'était vraiment très intéressant. Et puis, avec des artistes tout à fait nouveaux, bon, qu'on ne connaît pas tous, certains oui, en particulier le quintet de cuivre issu de l'Orchestre National du Capitole, évidemment, eux, on les connaît bien, mais il y avait un quatuor de saxophone qui réunissait quatre personnalités, donc, et puis un très beau quatuor de guitare.
Quatuor bergamasque.
Quatuor bergamasque, qui a rempli d'ailleurs tout un de ses modules. Vraiment intéressant, imaginatif, avec, évidemment, des œuvres de Vincent Joquin, bien sûr, et pour ce qui est des passages où l'ensemble des musiciens jouaient, eh bien, le tout était dirigé par Clément
Lanfranchi,
qui est un jeune chef d'orchestre qui prend des cours avec
élève de Touben Sokhiev, Alice Date à Toulouse,
voilà,
tout à fait.
Voilà, donc, et qui, bah, ma foi, qui a très bien dirigé les deux sections dans lesquelles il est intervenu. Tout ça était vraiment, vraiment bien. Alors, pour les œuvres de Vincent Joquin, bon, c'est une musique tout à fait abordable, hein, très simple, finalement, que j'avais qualifiée autrefois de musique du bonheur. C'était une musique heureuse, en quelque sorte. Et il y a eu quelques beaux moments. En particulier, il y a une œuvre sur laquelle je voudrais insister, qui s'appelle Boréal.
Oui.
Qui était joué d'ailleurs en création mondiale ce soir-là. Alors, c'est très, très bizarre a priori, puisque c'est avec un piano, un vibraphone et deux trompettes. C'est une association tout à fait incroyable, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'était vraiment très bien fait, très bien équilibré, et vraiment très expressif. Donc, une belle chose, avec ensuite, par le quintet de cuivre, un quintet également de Vincent Joquin, très imaginatif. Enfin, des œuvres intéressantes, et je voudrais quand même souligner... Je suppose qu'Éric, vous avez apprécié aussi. C'était cette version pour quatre guitares de la pavane pour une infante défunte de Ravel. C'était très convaincant. On avait l'impression que c'était écrit pour des guitares.
C'est vrai, on s'est dit, mais oui, c'est fait pour la guitare depuis toujours.
Oui, très, très particulier, très, très beau. Très
arrangement très beau. Du quatuor bergamasque lui-même.
Lui-même,
c'était
voilà.
Les quatre musiciens qui l'avaient réalisé.
Alors que la plupart des autres arrangements, évidemment, c'est aussi
de Vincent Joquin.
Vincent Joquin, bien sûr.
Vincent Joquin. Alors, une particularité aussi, tout de même, de cette formule, c'est que ce sont à chaque fois, ou presque à chaque fois, des pièces très courtes.
Très courtes.
Donc ça s'enchaîne, c'est très dynamique. Hein.
Oui, oui, absolument. Oui. Non, mais c'était une belle chose et vraiment le public a beaucoup apprécié.
Il y avait des pièces qui duraient 2-3 minutes et puis les plus longues allaient jusqu'à 12-13 minutes.
Voilà, notamment Boréal.
Voilà, mais c'était souvent 5-6-7 minutes, c'était à peu près cette durée-là. Donc évidemment, ça permet de maintenir toujours en éveil l'attention et la curiosité du public, ce qui est un des buts poursuivis par cette formule. Alors je voulais citer aussi parmi les musiciens, il y avait une pianiste et je voulais qu'on la cite, elle s'appelle Anaëlle Rétan.
Tout à fait.
J'avais
excellent.
Découverte la saison dernière dans le cadre de la saison bleue, alors, au moment où il y a des cartes blanches aux élèves du conservatoire, puisqu'elle sort tout juste du conservatoire de Toulouse, et j'avais déjà remarqué la sensibilité de cette jeune pianiste. Et puis, on va le citer aussi, Thibaut Buchaillet au vibraphone, un des excellents percussionnistes de l'Orchestre National du Capitole. Moi, je pense aussi que cette formule a de beaux jours devant elle, parce que le public a l'air d'adhérer, vraiment. Hein.
Et puis, je voudrais ajouter vraiment un avantage particulier, c'est l'affichage sur un écran des œuvres qui sont jouées. Et donc, sans avoir besoin de se précipiter sur son programme, on peut simplement, en regardant la scène, retrouver à quel endroit du concert on se situe. Là, c'est une bonne formule que certaines institutions devraient copier.
Peut-être, mais ça sera sans doute un jour le cas. Alors, ils ont terminé, il y avait une petite surprise à la fin qui n'était pas indiquée dans le programme. Qu'est-ce que c'était? Ça va dire quelque chose aux Toulousains, parce que c'était une musique dont s'est inspiré Claude Nougaro pour une de ses chansons.
Oui, c'était Girl Talk, donc Parole de fille, de Neil Ft, en fait, le compositeur. Que
tous les musiciens ont joué.
Oui,
tous,
oui, absolument.
Tous sur scène à ce moment-là.
Et que notre Claude Nougaro National a repris pour dans la chanson Danse sur moi.
Danse sur moi. Mais puisque nous avons dit tout le bien que nous pensions de la musique de Vincent Joquin, vous l'avez dit et je pense de même, nous allons écouter maintenant un petit échantillon. Anaëlle Rétan l'a joué d'ailleurs mardi soir, c'est la valse opus 20 numéro 1. Thank you. C'était la valse opus 20 numéro 1 de Vincent Joquin, une des pièces du compositeur toulousain que nous avons pu entendre mardi soir à Saint-Pierre-des-Cuisines lors du concert de rendez-vous musical. Et je voulais ajouter aussi qu'il faut saluer le sérieux avec lequel cet événement est organisé parce que c'est vraiment un travail remarquable de bout en bout. Le lendemain, le mercredi 3 à la cathédrale Saint-Étienne, c'était le concert d'ouverture du festival Toulouse des Orgues. Nous avons longuement parlé la semaine dernière avec Yves Rechsteiner, son directeur artistique, de la programmation de l'édition 2018 intitulée Sacré Orgue, et nous avions annoncé et présenté avec lui ce concert d'ouverture donné par l'ensemble Lumière d'Orient, L'Amour Divin, c'était le titre du programme interprété par cet ensemble de chanteurs. Les chants étaient entrecoupés d'improvisations de l'organiste Paul Gousseau. Anne-Marie et Serge, nous y étions tous les trois et nous avons entendu quelque chose de rare, quelque chose qu'on entend rarement en concert, hein, une sorte de long voyage aux confins des traditions musicales d'Orient et d'Occident, on peut le présenter comme ça?
Oui, tout à fait. Bon, on peut parler là d'œcuménisme, hein, puisqu'il s'agissait d'illustrer musicalement les trois religions monothéistes, à la fois la religion chrétienne, la religion juive et la religion musulmane. Alors réunir dans une cathédrale les trois religion sur la base de leur musique. Moi, j'ai trouvé cette initiative excellente, en particulier par les temps qui courent, de violence et de concurrence. Là c'était très bien, avec donc une succession de pièces. Il y avait quand même 23 pièces jouées, hein. Parmi ces pièces, il y avait l'improvisation sur l'orgue de tribune de la cathédrale Saint-Étienne, ce magnifique orgue, par un grand organiste qui est Paul Gousseau, et qui donc intervenait entre les différentes pièces chantées par l'ensemble Lumière d'Orient. Alors cet ensemble, il faut indiquer qu'il est composé à la fois d'hommes, on t'a donné leur nom, hein, Jean-Christophe Cando, Jean-Étienne Langiani, Antoine Sicot et Raphaël Robin, et puis avec évidemment Frédéric Tavernier-Vélas, qui est le maître d'œuvre en quelque sorte.
L'initiative du projet. Hein, ouais.
Et puis il y avait également deux intervenants pour la partie musulmane en quelque sorte, Aïcha Redouane, et Habibi Amine, qui chantent tous les deux, et Habibi Amine joue en même temps d'une percussion qui est intéressante et qui se rajoute au chant de ces deux-là. Donc, c'était une découverte, hein, effectivement, une découverte a priori tout à fait intéressante, et vraiment, il faut encourager ce genre de manifestation. Sauf que la durée de ce concert excédait vraiment la durée à laquelle on s'attendait. On s'attendait à une heure et quart.
Mais même à la durée annoncée, on peut le dire.
Une heure vingt. Et ça a duré 2h20. Oui. Donc là, c'était peut-être un peu beaucoup, surtout sans entracte.
Oui, sans entracte.
Et avec quand même une certaine austérité de cette musique. Hein. Il s'agit surtout de monodies. Il y a quelques pièces polyphoniques. D'ailleurs, certaines pièces au sein desquels l'orgue vient se mêler, mais la plupart sont des pièces monodiques. Bon, c'est un peu éprouvant à la longue. Hein. Donc, disons que si on avait divisé par deux la durée de ce concert, ça aurait été parfait.
C'est d'autant plus éprouvant lorsqu'on ne s'y attend pas.
Exactement.
On n'est pas prévenu. Hein.
Bon. Exactement.
Anne-Marie, alors vous, comment vous l'avez vécu, ce concert long, c'est vrai?
Je suis comme Serge, j'ai beaucoup apprécié le propos qui était de réunir les chants sacrés des trois religions monothéistes, les trois grandes religions monothéistes. La réalisation des chanteurs était excellente, c'est du très beau travail. Mais en même temps, étant donné que ça durait très très longtemps, le problème aussi c'est qu'on ne comprenait pas un mot de ce qui se chantait. Du moins de ce
oui, alors ça dit. C'est vrai, c'était un peu frustrant.
C'était un peu frustrant parce que lorsqu'on assiste à un office religieux, on connaît quand même la liturgie et puis on adhère, c'est un acte de foi. Là, c'est un concert, donc on écoute et ça dure et ça dure et ça dure. Ce qui fait que 2h20, 2h30 au lieu de 1h20, c'était très très long. Alors la plupart des gens sont restés. Je pense que serait gagné d'avoir un petit entracte et de mieux expliquer aussi peut-être le propos. C'était très bien chanté, très bien interprété, mais en même temps, c'était mettre un petit peu les gens à l'épreuve, disons.
Oui, oui, il faut peut-être préciser que c'était dans la nef gothique, puisque la nef raymondine est inaccessible.
Oui, puis c'était côté orgue, évidemment. Hein,
côté orgue, et puis ensuite on avait une vue sur le grand orgue qui était tout à fait spectaculaire.
Ah, oui, c'était très beau, là. Oui.
Des places où nous étions, en tout cas. Hein, donc,
oui, et puis cet organisme, moi, je l'ai trouvé formidable. Parce que vous
excellent.
Avez pensé, Paul Gousseau.
L'organisme était excellent, bien sûr.
Les improvisations très, très réussies.
Mais tous les interprètes.
Très à propos.
Hein, tous les interprètes étaient excellents.
Ah, oui, il n'y a rien à dire.
Ce qui était très bien, c'était la disposition. Hein, le public était entouré.
Voilà. Voilà.
Le noyau des chanteurs qui étaient là. Donc c'était une belle idée, une belle interprétation, mais bon, hélas, un peu...
Quitte à rajouter, je pense qu'on aurait pu, de temps à autre, éclairer le propos, peut-être,
oui, peut-être,
pour savoir à quoi on avait affaire.
Qu'ils auraient encore rallongé le concert.
Mais ben, il fallait le raccourcir à ce moment-là.
Oui.
Mais en dehors de lire, tout le monde s'accrochait désespérément au petit programme, ne savait pas trop ce qui se chantait, il faut reconnaître.
Oui, oui. Alors, à la décharge de l'organisation du festival, je sais par Yves Rechsteiner que les chanteurs ont rajouté des petits morceaux qui n'étaient pas prévus. L'organiste, ses liaisons étaient aussi plus longues que prévues, ce qui fait que tout ça, mis bout à bout, ben, à l'arrivée, ça a donné ces 2h20 de concert. Voilà, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a des gens qui ont un peu souffert de ça, ce qui peut se comprendre, même si ce qu'on a entendu était très beau. Je précise que les musiques et les chants des traditions des trois monothéismes que nous avons entendus sont issus des traditions soufies, juives séfarades, chrétiennes, latines et byzantines, là, pour être très précis. Et puis la chanteuse Aïcha Redouane, on va la citer, hein, grande chanteuse marocaine. Hein,
tout à fait.
Grande chanteuse
excellente,
marocaine,
hein.
Très connue dans son pays,
hein,
qui était remarquable. Et celui qui l'accompagnait, Habib Yamine, lui, il est libanais. Mais ils étaient très complices tous les deux.
Tout à fait.
Et j'ai beaucoup apprécié vraiment de les entendre. Voilà, donc Toulouse des Orques, ça continue jusqu'au 14 octobre. Il y a encore beaucoup de très beaux concerts, alors n'hésitez pas, allez-y, profitez-en. Pour ma part, je voulais dire quelques mots sur un concert que j'ai vu samedi dernier à la halle de Nayou, dans le Lauragais, celui qu'ont donné à quatre mains les pianistes Carmen Martinez et Guillaume de Chassy pour la deuxième soirée des rencontres musicales de Nayou. Pour ceux qui ne savent pas, la catalane Carmen Martinez est une pianiste dite classique, alors que le français Guillaume de Chassy est un pianiste de jazz et un improvisateur. L'une joue donc avec une partition sous les yeux, alors que l'autre est plutôt perturbée lorsqu'on lui en met une. Et pourtant, ils se sont associés pour donner un programme qu'ils ont appelé Round About Mozart, qu'on va traduire par Autour de Mozart, un hommage au grand compositeur autrichien et une allusion explicite au Round About Midnight de Thelonious Monk. Et bien, qu'est-ce que ça donne tout ça sur scène? Des œuvres de Mozart dont les passages sont joués d'abord classiquement comme c'est écrit par Carmen Martinez, auxquels succèdent des passages joués en improvisant par Guillaume de Chassy. Le résultat est parfois étonnant et même détonnant, mais c'est réjouissant parce que l'un et l'autre sont d'excellents musiciens. Il faut dire que c'est aussi assez sportif parce qu'ils sont assis côte à côte et qu'ils doivent souvent changer de place en pleine interprétation pour jouer leur partie. Je vous laisse imaginer ce que ça donne sur scène. Et ils ont commencé par une sonate et puis ils ont enchaîné par une fantaisie. Ensuite, ils ont terminé le concert par trois musiques de films ou utilisées dans des films, réarrangées, improvisées par Guillaume de Chassy. J'ai oublié le titre de la première, mais ne me le demandez pas. Il y avait America de Leonard Bernstein, extrait de West Side Story, et le T for Two qu'on entend dans La Grande Vadrouille. Cette partie, évidemment, beaucoup plus au public, le reste aussi d'ailleurs. Dommage qu'il n'ait pas été plus nombreux ce public, parce que ce festival, mais il y a une jolie programmation et avec de très bons musiciens, donc ça mériterait qu'il y ait un peu plus de monde. Comme je suis certain que vous mourrez d'envie de découvrir Carmen Martinez et Guillaume de Chassy dans leurs œuvres, voici un extrait de leur programme Round About Mozart.
Thank you.
Un extrait de Roundabout Mozart, le programme qu'ont interprété Carmen Martinez et Guillaume de Chassis samedi dernier à l'Halle de Nailloux. Et je signale en passant que le duo va faire paraître un CD consacré à ce programme. C'était le deuxième rendez-vous des rencontres musicales de Nailloux qui se sont terminées ce vendredi avec le concert des Passions de Montauban. Nous terminons aussi cette première partie d'émission avec Mozart, mais nous allons vite le retrouver après la pause grâce à Ruben Velasquez, notre invité du jour. Rendez-vous dans une petite minute. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, Ruben Velasquez, président de la Dame d'Aragon.
Mélomanie, l'agenda.
Ruben Velasquez est donc à nos côtés pour évoquer avec nous le concert Mozart Pèlerin de l'Infini, organisé par la Dame d'Aragon lundi 15 octobre à 20h à l'Allograin de Toulouse. Un concert dont Mozart sera le seul compositeur au programme, comme l'indique son titre. Nous allons y revenir tout à l'heure. Auparavant, je voudrais que vous nous présentiez la Dame d'Aragon, l'association que vous présidez et que vous avez fondée, parce que sa raison d'être et ses objectifs dépassent le seul cadre de la musique, si j'ai bien compris. Expliquez-nous ça, Ruben Velasquez.
En deux mots, la Dame d'Aragon, c'est un lien avec Saragosse, avec tout le massif pyrénéen aragonais, mais au-delà quand même. Ça peut être basque, ça peut être de Madrid, en fait, parce que tous les musiciens ne sont pas de Saragosse. La Dame d'Aragon, donc, avec Annie Andioc, avec Michel Martinez, nous avons décidé, l'appui de Jean-Jacques Cubaine aussi, donc de créer cette association il y a un an et demi. Vu que j'avais ce lien depuis déjà une vingtaine d'années avec l'Aragon, et mes amis aragonais me demandaient « mais enfin, on ne vient jamais à Toulouse, etc. » Alors qu'il y a des liens fondamentaux avec Saragosse.
Et anciens.
Très, très anciens. Et puis aussi des conventions, mairies, des deux mairies, voilà. Alors on s'est mis au travail et puis on a dit « on va voir ce qu'on peut faire ».
Oui, parce qu'il y a même des accords de coopération qui ont été signés entre Toulouse et Saragosse, notamment dans le domaine culturel. Donc vous vous inscrivez vraiment dans quelque chose qui est déjà préexistant, mais que vous alimentez à votre façon.
Ben, l'année dernière, la première action culturelle, notre première action, et dans le cadre des échanges Saragosse-Toulouse-Toulouse-Saragosse, c'était le Requiem de Mozart à la cathédrale Saint-Étienne, avec deux jours de succès magnifique, et l'orchestre et les chœurs, mais avec des chœurs aussi de Midi-Pyrénées, il y avait aussi cette alliance-là.
Oui, parce que vous avez vraiment des attaches, même des amis, on peut le dire, là-bas, notamment à l'auditorium de Saragosse, très grande salle s'il en est, et avec l'orchestre du Royaume d'Aragon qui est résident dans cette salle.
Tout à fait. Alors, l'auditorium, qui est l'équivalent de l'Allograin, avec son orchestre du Capitole, prestigieux. Cet auditorium a déjà accueilli tout le quota de pianistique et le chanteur de Domingo, à tant d'autres. Et là, oui, le fait que l'orchestre soit résident, l'auditorium, ils sont sous le couvert de l'auditorium, et nous demandent de travailler directement avec eux. Alors, c'est une présentation prochaine au nom de l'auditorium de Saragosse à Toulouse.
Oui, parce que le but, c'est bien d'organiser des concerts de part et d'autre des Pyrénées. Vous avez parlé de avril 2017, concert à Saint-Étienne avec l'Orchestre du Royaume d'Aragon, mais des Français vont, même sont peut-être déjà allés de l'autre côté, chanter à Saragosse.
Ils y sont allés, comme Marie Cubaine est allée interpréter donc au festival Ribagorza, tout un programme dans ce festival qui est un des festivals aragonais prestigieux, oui.
Les deux, parce qu'il y en avait eu deux, premier concert en avril 2017, je crois que c'était le 20 et le 21 avril pour être précis. Est-ce que le public était au rendez-vous? Comment ça s'était passé avec le public toulousain? Est-ce qu'il était venu soutenir cette initiative et découvrir cet orchestre du Royaume d'Aragon?
C'est-à-dire que découvrir l'orchestre, je ne savais pas s'ils venaient pour découvrir l'orchestre, mais en tout cas pour Mozart, ils venaient. La grande surprise pour eux, c'était de découvrir un orchestre espagnol, aragonais, qui joue Mozart, une des plus grandes œuvres. Alors, succès, pleinement succès, puisque je crois que c'est au-delà de 1500 personnes qui sont déplacées, qui ont acheté les billets. Et puis, cette Dame d'Aragon a une particularité, c'est toujours de préserver le don. Avec la gendarmerie nationale, leurs pupilles, l'armée de terre, leurs pupilles, les parachutistes, etc., et tant d'autres. Cela peut être pour le cancer, pour tout ce qui est défavorisé, malheureusement. Donc, c'est de laisser un don avec, bien entendu, quand les comptes sont terminés, que les musiciens sont payés, que le monde professionnel est payé. Parce que nous sommes contre la gratuité des spectacles. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'il y a une place à acheter, mais si on peut reverser, on le fait. Aujourd'hui, on entend des musiciens jouer quelquefois pour rien, pour pas un seul euro, et ce n'est pas normal. Si on veut l'échange, c'est-à-dire que par exemple, la Dame d'Aragon, elle peut offrir une place achetée, une place cadeau, comme on le fait sur chez Festic aujourd'hui. Elle peut aussi reverser à des associations, tant soit peu. C'est le geste qui est important. Si on peut donner beaucoup, on le fait. Mais bon, l'année dernière, je ne sais plus si c'était 7000 euros que nous avons donné entre la gendarmerie et l'armée. Voilà pourquoi la gendarmerie, pourquoi l'armée, j'anticipe un peu. Parce que c'est vrai aussi que c'est important de faire le lien armée-nation. Par les temps qui courent, plus que jamais, nous avons besoin de protection et ce sont bien eux qui nous protègent quand même.
D'ailleurs, il y a l'association aussi Entraide Parachutiste qui vient en aide aux blessés de l'armée.
Hein, tout à fait.
Parachutistes, en l'occurrence. Donc voilà, aspect caritatif à ces concerts. Et puis, participer à l'échange transpyrénéen par la culture. Eh bien, nous allons parler maintenant du programme de ce concert, puis de ceux qui vont l'interpréter. Vous l'avez titré Mozart, pèlerin de l'infini. Pourquoi ce titre un peu mystérieux, quasi mystique?
Ben oui, parce que Mozart, ce voyageur musicien de l'Europe...
Dès son plus jeune âge, qui
a écrit une quantité de lettres impressionnantes. D'ailleurs, où Jean-Jacques Cuben en lira quelques-unes lors du concert. Oui, pèlerin de l'infini, parce que le pèlerin de Saint-Jacques, en pensant à lui, c'est le pèlerin de Saint-Jacques de la musique. Mais ne sommes-nous pas tous des pèlerins, finalement, qui allons vers l'infini. Hein, cette étoile qui nous atteindra un jour, on atteindra bien cette commesse d'Avour l'a fait il n'y a pas longtemps.
Oui, et puis bon, je rappelle aussi que Toulouse est sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Bien sûr, il y a deux hauts lieux
à Toulouse qui sont la basilique Saint-Sernin et l'Hôtel-Dieu, pas très loin de la radio d'ailleurs. Donc Mozart, pèlerin de l'infini. L'infini aussi, c'est parce que dans sa musique, il avait une façon de l'explorer. Sa musique incarne cet infini.
Oui, alors là, moi, je vais laisser la parole aux musicologues, je pourrais dire, de cette table et aux critiques, parce que je n'ai aucune prétention d'analyser la musique mozartienne, ni pas plus qu'une autre. Simplement, bon, en tant que musicien et chanteur, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui me plaisent, d'autres choses qui ne me plaisent pas. Cela dit, bon, je n'ai pas, l'étude de la musicologie, ni de l'analyse musicale. Mozart, pour moi, encore une fois, c'est un avis. Mozart, il est à part. Il y a tous les autres, mais il y a Mozart. Donc, je ne suis pas le seul à penser ça, je crois. Hein.
Mais justement, je vais poser la question, puisqu'ils sont là tous les deux, à Serge Chosy et Anne-Marie Chouchan. Mozart, vous le mettez où dans votre panthéon musical?
Je pense que nous le mettons tous très haut, évidemment. Hein.
Mais est-ce que vous le mettez plus haut que tous les autres?
Ah, c'est
très haut, bon, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Évidemment,
c'est difficile à dire. Mozart est-il plus grand que Bach? Bach plus grand que Mozart?
Et Beethoven,
Schubert. Hein. Bon, honnêtement, je n'aime pas les hiérarchies, en particulier dans ce domaine-là. Il y a les très grands et puis les autres éventuellement.
Moi non plus, parce qu'on peut se demander est-ce qu'ils sont très grands par l'importance de leur œuvre en nombre, par aussi...
La qualité,
puis aussi l'importance qu'ils ont occupée dans l'histoire de la musique.
Et la variété, si je peux dire, concernant Mozart.
Temps aussi, parce que leurs compositions ont apporté souvent quelque chose en même temps de nouveau. Bon, beaucoup de choses qui sortaient aussi de la musique d'une époque. Et Mozart, c'est d'abord, c'est vrai, le génie d'un enfant prodige. Et il y a toujours dans sa musique quelque chose qui participe de ça, du génie et d'une sorte de simplicité finalement. C'est une musique qui s'adresse directement. Qui, alors que la musique de Bach est tout de même à la fois savante et austère, Mozart n'est pas austère. Et là, puisqu'on parle du Requiem qu'il n'a malheureusement pas pu terminer, c'est une œuvre qui est d'une émotion qui ne peut laisser personne indifférent, qui est poignante, c'est vrai, même si le fameux... La dernière partie qui n'est pas de la main de Mozart, ça s'entend. Et puis aussi le 23e concerto là, qui va être joué lors de ce concert est une œuvre sublime. Mais je suis comme Serge, j'aime pas établir des hiérarchies parce qu'à certains moments, il y a tellement de compositeurs qui peuvent vous combler sur tous les plans, en fait. Hein.
Et puis, pour ce Requiem, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, ce Requiem, il renferme une charge émotionnelle très importante. Puisqu'on le sait, Mozart ne savait pas exactement qui lui commandait ce Requiem. Et comme il était déjà très malade, il a même déclaré qu'il pensait qu'il composait ce Requiem pour lui-même. Donc il sentait qu'il allait mourir. Et on peut imaginer que dans ces conditions-là, la musique qu'il a composée avait un
chargé quelque chose d'un peu particulier encore plus que ses autres œuvres.
Tout à fait exceptionnel. Hein. Donc effectivement, ce Requiem est une pure merveille. Hein. Reconnaissons-le. Et même s'il y a plusieurs versions d'ailleurs du final, hein, de la fin, il y a Süssmayr qui était l'élève de Mozart, qui a donc adapté un peu les derniers éléments qu'avait déjà écrit Mozart, a repris certains passages antérieurs et a fait du bon travail. Hein. Là n'est pas la question. Et puis il y a eu d'autres, il existe d'autres versions.
Plus
récente, mais bon, quelle que soit la version, l'œuvre est toujours exceptionnelle.
À tel point exceptionnel que Ruben Velasquez, vous l'aviez programmé en avril 2017 pour les premiers concerts organisés par la Dame d'Aragon, là c'était à Saint-Étienne, et vous reprenez le Requiem cette fois-ci. Pourquoi vous avez voulu le reprendre, ce Requiem? Vous auriez pu faire autre chose.
Oui, mais nous le reprenons dans un lieu laïque, et c'est important. Bien sûr, la cathédrale Saint-Étienne a une magie particulière, mais le fait d'amener la musique sacrée dans un lieu laïque, c'est un témoignage. C'est d'amener aussi le monde chrétien à se déplacer à cette toile au grain qui a tellement d'histoire.
La salle de Michel Plasson, évidemment.
Bien sûr, l'histoire de Plasson, l'histoire est bien avant. D'ailleurs, c'était une très belle décision de transformer ce lieu
un lieu de culture, un haut lieu de culture.
Alors que c'était un lieu de culture, de cultivateur.
Un autre genre de culture.
Et de meeting politique aussi.
Et de meeting politique, vous avez raison.
Mais c'est grâce à Plasson qui a déniché par hasard cette salle, parce qu'il n'avait plus de salle.
Bien sûr.
Que les concerts symphoniques avaient lieu au Capitole, au théâtre, ce qui n'était pas idéal. Ouais. Et puis un beau jour, je crois qu'il y a eu des travaux au Capitole, il fallait trouver un endroit. Voilà. On a cherché, puis on a trouvé cette
salle. Cette salle a été baptisée pendant un temps Palais des Sport d'ailleurs.
Oui, puisque il y a des matchs de catch,
des matchs de boxe. Hein, donc, c'était vraiment une salle polyvalente.
On peut le dire.
Mais Plasson a fait la.
Voilà.
Mais voilà, d'ailleurs, il faut lui rendre hommage.
Oui, absolument.
À Maître Plasson.
Je pense que personne n'oubliait ce qu'il a fait pour la musique à Toulouse et ce qu'il a fait de l'Orchestre National du Capitole pendant toute la période durant laquelle il a dirigé
35 ans.
Hein, c'est lui qui l'a amené
à des
sommets qui après ont été consolidés par Tougan Sokiev, bien entendu. Alors, le Requiem, et puis là, vous avez ajouté le 23e concerto pour piano. Alors là aussi, même question, pourquoi vous avez choisi ce concerto précisément?
Voilà, parce qu'il est essentiellement joué par un enfant merveilleux. Le verbe français est d'ailleurs merveilleux aussi, c'est le jeu joué. Et cet enfant, Constant Després, que j'ai vu naître d'ailleurs, qui est une perle, et qui va jouer pour les enfants, parce que lui, il est fasciné par les enfants en tant qu'enfant. Et puis il va jouer aussi pour les enfants qui sont dans notre intérieur adulte, n'est-ce pas? Pour nous retrouver à nous. D'ailleurs, on ferait bien de temps en temps d'écouter Constant Després, comme tout musicien d'ailleurs, qui transmet l'enfance. Il faut retrouver l'enfance.
Mais je pense que c'est très présent dans la musique de Mozart, l'enfance, entre autres.
Hein. Mais exactement, mais souvenons-nous de ce que disait Arthur Schnabel, grand pianiste qui interprétait Mozart. Il disait à propos de la musique pour piano de Mozart, c'est une musique très facile pour les enfants, mais beaucoup trop difficile pour les adultes. Et effectivement, un enfant est tout à fait indiqué pour jouer de la musique de piano de Mozart. C'est parfait.
Alors Constant Després, un enfant, on va préciser, il a 11 ans. on va dire, un jeune garçon, que vous avez vu naître, parce que vous étiez très ami avec son père, je crois.
Oui,
il faut dire qu'il est le père de Constant Després, qui est Stéphane Després.
Stéphane Després, est un musicien, un compositeur, enfin, essentiellement parolier, des démons de minuit, par exemple.
Voilà.
De cette génération des années 80, avec Serge Guérahault, Jean-Pierre Madère. Alors, tout ça, ça a été un long chemin entre nous, des rencontres, Pierre Théodori, etc., etc. Et Stéphane, un jour, il s'est marié avec une dame qui est indienne et donc qui a enfanté merveilleux gamin qui aujourd'hui va interpréter le 23e concert de Mozart.
Ouais, alors Mozart, enfant prodige lui-même, voilà, donc la boucle est bouclée. Ça va être une première pour Constant Després avec un grand orchestre symphonique comme celui du Royaume d'Aragon.
Ah oui, c'est une première, et d'ailleurs la rencontre a eu lieu la semaine dernière avec Ricardo Cassello, donc, qui est un chef prestigieux, qui donc issu du monde de Chilibilac et tant d'autres. La rencontre, et ce que disait tout à l'heure Anne-Marie Chuchon, c'est ce fait de la simplicité. En une heure de temps, il a tout changé dans Constant, l'amenant dans la simplicité du jeu. Et il y a une communication parfaite entre tous les deux. Et d'ailleurs, il a dit « Je l'inviterai à Saragosse à jouer ».
Très bien, bonne idée.
Il est à Toulouse, ce jeune prodige.
Oui, il vit à Tournefeuille.
Oui, il est vraiment toulousain, hein, comme son père. Là, aussi,
il est à Tournefeuille.
Alors, vous le suivez aussi, je crois que vous l'avez joué dans des festivals, parce qu'il s'est déjà produit sur scène plusieurs fois,
Constant Després. Tout à fait, oui, dans des festivals périphériques, on pourrait dire, d'Aubazan, aussi, Carcassonne, enfin...
Et vous l'avez entendu dans quel répertoire, à part Mozart, donc ça, on en a parlé, mais il joue quoi? Il joue tout le répertoire romantique.
Et justement, dans romantique, je reviens à dire, de ce 23e concerto, Riccardo Cassello, donc, lui demandait cette couleur, donc c'est pianissimo, etc., etc. Mais il lui demandait aussi ce côté romantique de ce 23e concerto. Et alors, la particularité, encore une fois, de Constant, c'est qu'il est, comme disait le maestro, c'est qu'il peut changer à tout moment ce qu'on lui propose. Et alors, avec l'orchestre, c'est très facile à travailler. Voilà, il a ce don aussi de ce changement.
Constant Després, il a déjà joué des mouvements du 23e concerto de Mozart avec l'orchestre Mozart, justement, de Claude Robichaud, que tout le monde connaît à Toulouse. Mais il joue aussi le répertoire romantique dont je parlais à l'instant. Il joue du Rachmaninov et il joue du Chopin. Nous allons l'écouter jouer une pièce du grand compositeur franco-polonais. Il s'agit de la très belle et très connue Fantaisie impromptue, opus 66. La Fantaisie impromptue, opus 66 de Frédéric Chopin, interprété par Constant Després, qui le 15 octobre à la Halle aux Grains jouera non pas du Chopin, mais les deux premiers mouvements du 23e concerto de Mozart, accompagné par l'orchestre du Royaume d'Aragon, sous la direction de Riccardo Cassero. Ce qui m'amène maintenant à vous demander de nous en dire un peu plus sur cette formation et son chef, concernant l'orchestre du Royaume d'Aragon. Comment on peut le classer parmi les grands ensembles symphoniques européens?
Alors, l'Espagne, en 2008, a subi une dévaluation considérable. Et là, le monde artistique s'est carrément effondré. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a enlevé, on n'a pas diminué, on a carrément supprimé les subventions d'État aux associations. Alors, il s'est passé que, notamment, Serge Guarné, qui est le président fondateur de cet orchestre, a créé un mouvement pour essayer de voir comment on pouvait, en tant que semi-privé, avec une partie d'associatifs, de sponsors, de continuer l'orchestre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, il y a un fonctionnement qui est différent. Maintenant, il est semi-privé, pour ainsi dire, puisqu'il a des sponsors qui le soutiennent. Voilà. Et donc, cela permet d'avoir une subvention relativement importante de l'État, mais toujours avec l'appui des
partenaires privés. Voilà, donc ce n'est pas un orchestre du niveau de l'Orchestre National du Capitole, non, mais évidemment, mais ça reste quand même un très bon orchestre symphonique. Mais
ça reste un très bon orchestre parce que, suivant les compositeurs choisis, on peut inviter, par exemple, ici, le 15 octobre, ça sera la première violoniste du National d'Espagne qui viendra jouer.
Qui viendra en soutien.
Donc, il y a une solidarité qui s'est produite depuis cette action difficile de 2008, où il y a une fusion, je pense. L'union est faite, par contre, que ce soit de Catalogne, d'Aragon, de Pays Basque, etc. Suivant la disponibilité des uns et des autres, l'orchestre, lui, existe. Il est constitué, mais il est aussi constitué par... Nous sommes 200 musiciens. Ces musiciens ne sont pas fixes.
Oui, bien sûr.
Voilà, mais ils peuvent jouer, mais à tout moment, ils sont disponibles. Voilà.
Et puis, il est porté par son chef, Ricardo Cassero.
Ah, il est porté par son chef, Ricardo Cassero, qui lui dirige dans différents pays, comme tant de chefs.
Oui, chef invité, comme on en a à l'Orchestre du Capitole. Hein.
Par exemple, là, il vient de diriger l'Orchestre de Granada, qui est aussi un orchestre très, très important. Il dépend aussi de Valence, parce que c'est un chef
qui est un Valencien.
Ouais. Il a été d'ailleurs directeur adjoint du théâtre de Valence. Enfin voilà. Donc il est dans cette ligne-là, quoi.
Alors, l'orchestre du Royaume d'Aragon, dirigé par Ricardo Cassero et avec le chœur Amici Musicae, va interpréter le Requiem de Mozart le 15 octobre à la Halograin. Eh bien, le voici dans un extrait de ce même Requiem, le beau et poignant Lacrimosa. Le Lacrimosa du Requiem de Mozart, interprété par l'Orchestre du Royaume d'Aragon sous la baguette de Ricardo Cassero, une des œuvres que l'Orchestre aragonais va donner lundi 15 octobre à la Halograin lors du concert Mozart Pèlerin de l'Infini. Avant de terminer cette émission, je voudrais qu'on dise un mot sur le premier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Il a lieu ce lundi 8 octobre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, bien sûr. 6 musiciens de l'Orchestre National du Capitole, 2 violons, 2 altos et 2 violoncelles pour une soirée Brahms et un programme où l'on trouve les deux sextoirs à cordes du grand compositeur allemand. Une fois de plus, les Clés de Saint-Pierre sont fidèles à leur vocation en présentant des œuvres très rarement jouées en concert, Serge.
Ah, tout à fait. Ces deux sextoirs au cours d'un même concert, c'est rarissime. Hein, et là, c'est vraiment très important parce que ce sont les deux seuls qui ont composé Brahms, même si d'autres compositeurs ont composé des sections. Là, en l'occurrence, c'est bien, ce sont deux sections composées dans un intervalle de 5 années à peu près, avec le premier qu'on qualifie souvent de Frühlingsextet, c'est-à-dire le section du printemps, qui est très souriant, très beau, et d'ailleurs les cinéphiles doivent se souvenir que dans son célèbre film Les Amants, Louis Malle avait utilisé l'Andante à variation. Et puis le deuxième sextuor, qui lui est écrit 5 ans plus tard, qui est un hommage en fait à l'une des femmes qu'a aimé Johannes Brahms. Donc c'est toujours très touchant d'imaginer que ces pièces-là sont des hommages intimes et donc lié à la vie amoureuse du compositeur. Alors les 6 musiciens de l'Orchestre du Capitole sont les chefs de pupitre à peu près de leur...
Oui, il y a du beau monde, comme on dit.
Ah oui, oui. Alors Christy Giazzi, qui est le nouveau super soliste de l'Orchestre du Capitole, est associé à Mary Randles, donc les deux violons, et les deux altos sont Bruno Dubarry et Juliette Gilles.
Deux habitués des Clés de Saint-Pierre.
Voilà.
On entend presque tous les ans.
Exactement. Et puis les deux violoncelles sont Sarah Yantou et Élise Robineau. Donc deux dames, et on voit que la parité est exactement retenue, puisqu'il y a 3 dames, non même 4 dames, et 2 hommes seulement.
Ils sont même majoritaires, vous vous
voilà,
rendez compte. Voilà, bon,
bravo.
Ça, ce sera donc la soirée Brahms.
C'est très bien.
Lundi 8 octobre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il faut malheureusement qu'on arrête là. Il me reste à remercier Anne-Marie Chouchan et Serge Chosy de m'avoir assisté dans l'animation de cette émission, et à remercier bien sûr Ruben Velasquez pour sa venue. Le concert Mozart Pèlerin de l'Infini est donné à la Halle au Grain lundi 15 octobre à 20h, au programme Le Requiem et le 23e concerto pour piano, et à l'interprétation Constant Després au clavier et l'Orchestre du Royaume d'Aragon sous la direction de Ricardo Cassero. Alors vous pouvez vous renseigner sur la page Facebook de la Dame d'Aragon, bien sûr, et puis vous pouvez acheter et réserver vos places en ligne sur le site www.la-dame-d-aragon.festic.net. D'autre part, le festival Toulouse des Orques se poursuit jusqu'au 14 octobre. Le programme et les réservations sont disponibles sur le site www.toulouse-les-orgues.org. Je rappelle que les représentations de la Traviata se terminent dimanche 7 octobre au Théâtre du Capitole. Il y a 2 représentations, une à 15h et l'autre à 20h30. Et il reste quelques places que vous pouvez réserver sur le site www.theatreducapitole.fr. Toujours ce dimanche 7 octobre, je signale le concert que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse à l'Hôtel Palladia à 20h. Et l'Orchestre de Chambre est aussi en concert à Saint-Pierre-des-Cuisines les jeudis 11 et vendredi 12 octobre à 20h30. Il est possible de consulter les programmes de ces concerts et de réservé sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Si vous voulez avoir des informations et faire vos réservations pour le concert des Clés de Saint-Pierre dont venons de vous parler, je rappelle que c'est le lundi 8 octobre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, il faut vous connecter au site www.lesclésdesaintpierre.org. En ce qui concerne l'Orchestre National du Capitole, son prochain concert, la Halle au Grain, est prévu vendredi 11 octobre à 20h avec Wayne Marshall à la direction et un programme entièrement dédié à la musique de Leonard Bernstein, Kadish entre autres. Renseignements et réservations sur le site www.onct.toulouse.fr. Ce même vendredi 12 octobre à 20h45, à la cathédrale Notre-Dame du Camp de Pamiers, concert de clôture du festival Musique au pays de Gabriel Fauré, avec l'organiste Thierry Esquèche et le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca. Et enfin, notez que la soprano Anaïs Constant et le guitariste Thibaut Garcia sont en concert ce même vendredi 12 octobre à 20h30 à l'église de Vazrac. C'est dans le Tarn-et-Garonne à côté de La Française. Ils vont donner un programme d'air et de musique espagnole dans le cadre des scènes musicales d'automne. Merci à Yannick Galupini d'avoir assuré la régie technique de cette émission, qui est disponible et réécoutable comme d'habitude en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve dans une semaine. D'ici là, je vous souhaite à tous de très beaux moments de musique.